Quelqu'un entre dans ma chambre et me secoue violemment. Est-ce Perle de Lune qui essaie de me réveiller pour le marché du dimanche ? Je lui tourne le dos. Au lieu de s'en aller, elle s'assoit sur mon lit. Elle me tire par l'épaule et se met à geindre. Agacée, je me lève d'un bond et ouvre les yeux. À la place de ma sœur, j'aperçois Wong, en larmes. « Viens vite ! Les résistants vont être exécutés ce matin. Il paraît que le cortège passe par la porte du Nord. Habille-toi ! J'ai peur qu'il ne soit trop tard. » J'enfile la première robe que je trouve. Mes doigts tremblent si fort que je ne parviens pas à la boutonner. Je sors de ma chambre tout en roulant mes cheveux en chignon. « Où vas-tu ? » me demande Père. Je prends le courage de mentir. « J'ai une partie de go. Je suis en retard !» À l'autre bout du jardin, je heurte ma sœur qui franchit le portail. Elle m'empoigne par le bras. « Où vas-tu ? Laisse-moi ! Je ne vais pas au marché ce matin !» Elle jette sur Wong un regard hostile et me prend à part. « Il faut que je te parle. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne suis pas enceinte. C'était une grossesse imaginaire. J'ai eu mes règles ce matin. » Perle de Lune s'abandonne de tout son poids dans mes bras. Je l'entraîne jusqu'à la maison. La cuisinière se précipite à mon secours. Profitant de ce désordre, je m'éclipse. À la porte du Nord, des centaines de personnes se pressent au pied du rempart. Les soldats japonais repoussent la foule à coups de crosse. Mon sang se fige. Je réalise que quelque chose de terrible va se passer sous mes yeux. Un enfant crie. « Ils arrivent ! Ils arrivent !» Dressé sur la pointe des pieds, j'aperçois un bœuf noir tirant un tombereau sur lequel on a fixé une cage enfermant trois hommes. Du sang plein la bouche, il vocifère des phrases inintelligibles. J'entends quelqu'un murmurer « On leur a coupé la langue !» Mon cœur se serre. Torturés à mort, les condamnés se ressemblent tous. Chair ensanglantée qui respire pourtant. Le cortège s'arrête au bord d'un terrain désert. Les soldats ouvrent les cages et font avancer les prisonniers à coups de baïonnette. Des cris s'élèvent. Une femme, richement habillée, aidée de deux robustes servantes, écarte les gens qui lui font obstacle et parvient au cordon des militaires. « Mine, mon fils !» Au loin, un homme se retourne. Il tombe à genoux et se prosterne trois fois dans notre direction. Mon cœur s'arrête. Les soldats se jettent sur lui et le battent. Les condamnés sont agenouillés sur une même ligne. Un soldat brandit le drapeau. Tous lèvent leurs armes. La mère de Mine s'est évanouie. Mine ne me regarde pas. Il ne regarde personne. Il n'existe plus rien que le bruissement des herbes, le cri faible des insectes, la brise qui souffle sur sa nuque. Suis-je dans sa pensée, moi qui porte sa descendance ? Les soldats chargent leurs fusils. Mine tourne la tête. Il dévore des yeux un condamné à sa gauche. Je finis par reconnaître Tang. Il se sourit. Mine se penche péniblement et finit par poser ses lèvres sur la joue de la jeune femme. Les tirs crépitent. Mes oreilles bourdonnent. Je flaire une odeur de rouille mêlée à celle de la sueur. Est-ce cela, l'odeur de la mort ? Un dégoût profond me fait tressaillir. Mon estomac se contracte. Je me penche pour vomir. J'erre dans les rues, le corps raidi. « Rentre chez toi, me dit Wong. Laisse-moi tranquille. Je t'en prie, rentre à la maison. Je hais ma maison. Alors pleure, pleure un bon coup, je t'en supplie. Je n'ai pas de larmes. Je me recroqueville. Wong me dit « Ying est vivant !» Mais ce bonheur ne me suffit pas. Je suis enceinte d'un homme mort. Il faut que je me tue. Tu es devenue folle ! Après un long silence, elle me demande « As-tu vu un médecin ? Tu n'as peut-être rien. Je n'ai confiance en personne. Je vais te trouver un médecin. À quoi bon ? Mine m'a trahi. Je dois mourir. »